Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes bien à l'écoute de votre émission « C'est nécessaire à la une ». C'est votre rendez-vous hebdomadaire qui aborde toutes les questions concernant le fonctionnement de la sécurité sociale au Gabon. Aujourd'hui, dans notre 15e numéro, nous allons évoquer essentiellement la question des réclamations au sein de la CNSS. Avec nous dans ce studio, une personne ressource, il s'agit de Monsieur Moré Fabrice. Il est chef de division recouvrement et organisation au sein de la direction du recouvrement et du contentieux. Monsieur Fabrice, bonjour.
Bonjour Monsieur Romuald Koumba.
Alors, heureux de vous recevoir dans ce studio, comment vous sentez-vous ?
Ben, c'est un plaisir pour moi déjà que d'être ici parmi vous ce matin. Et je puis vous certifier que je me sens très bien.
Ok, d'accord. Alors, nous allons bien démarrer cette émission avec vous, Monsieur Moret, pour situer d'abord un peu les auditeurs. Hein. Peut-être nous dire d'abord à quoi sert votre division recouvrement et organisation dont vous avez la charge.
Ben, je vais résumer l'organisation de ma division de la manière suivante. Donc, comme son nom le dit, c'est la division du recouvrement et l'organisation. Nous avons pour mission de collecter auprès de l'ensemble de nos cotisants les cotisations inhérentes à l'assuré, conformément aux dispositions de la loi. Et nous organisons un peu la vie de notre département par la gestion des requêtes et des réclamations.
Eh bien, là-dedans, vous avez bien souligné le mot. Vous avez la charge de gérer les réclamations. C'est quoi une réclamation et qui doit réclamer exactement ?
Alors, pour nous, une réclamation peut se définir comme étant une requête adressée soit par un cotisant, c'est-à-dire un employeur, ou un assuré assujetti à notre régime. Donc, les différentes personnes pouvant émettre à l'endroit de la CNSS des réclamations ne sont autres que les cotisants, c'est-à-dire les employeurs, et les assurés. Mais il n'est pas exclu ici qu'un travailleur puisse adresser une requête ou une réclamation à l'endroit de la CNSS, dans la mesure où ce dernier est assujetti à un employeur qui est censé ou qui est immatriculé à la CNSS.
Alors peut-être nous déterminer quelles sont les différentes réclamations que vous rencontrez.
Alors nous avons plusieurs types de réclamations concernant les cotisants, c'est-à-dire les employeurs. Nous avons des réclamations portant sur la sollicitation de ces derniers pour l'établissement d'une attestation pour soumission. Nous avons les radiations, nous avons les reprises d'activité, nous avons les mises en sommeil ou les changements de coordonnées ou adresse.
Et parmi ces réclamations, quelles sont les plus récurrentes, celles qui reviennent le plus ?
Celles qui reviennent le plus, je puis vous certifier que c'est les attestations pour soumission et généralement les mises en sommeil.
Et pourquoi ?
Bon, déjà, l'attestation pour soumission sert à ces derniers dans l'optique de postuler pour un appel d'offres au niveau de la Direction générale des marchés publics. Donc, au niveau de la Direction générale des marchés publics, c'est une pièce nécessaire pour confirmer que cette société est citoyenne et effectivement à jour de ses cotisations. Donc, nous sommes tenus, nous, organismes de sécurité sociale, de produire ce document à nos assurés.
Alors, vous avez constaté justement cette permanence dans cette réclamation. Est-ce que vous avez essayé de faire une forme de communication large là-dessus pour que, effectivement, ça puisse diminuer un peu?
Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, plus que jamais, la CNSS n'a de cesse de communiquer. Je veux dire, sur 4 ans bientôt, la CNSS passe son temps à communiquer. Et nous profitons d'ailleurs de cette tribune pour lancer encore cet appel, pour demander à nos usagers de s'imprégner encore un peu plus et voilà quoi.
Alors quels sont les types de pièces qu'il faut justement présenter pour être aux normes ?
Alors, dans un premier temps, il y a le statut d'assujetti au régime parce que ne peut bénéficier d'une attestation pour soumission qu'une société qui est effectivement immatriculée à la CNSS. Mmh. Ça, c'est l'élément déclencheur. Et le second volet, c'est le fait d'être à jour de ses cotisations. Qu'est-ce qu'on entend par à jour de ses cotisations ? C'est d'honorer au paiement des cotisations sociales chaque trimestre à échéance.
Il vous arrive comme ça d'avoir beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à jour ?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, être à jour, c'est quoi ? C'est payer les cotisations, comme je le disais. Mais le tout n'est pas seulement de payer les cotisations. Il faut les payer à échéance, parce qu'un employeur peut avoir effectué effectivement les paiements de ses cotisations, mais s'il les fait après échéance, alors le code de sécurité sociale et son décret d'application, nous sommes d'appliquer des pénalités à ce dernier.
Quel type de pénalité, par exemple ?
Nous avons des pénalités pour majoration pour paiement tardif et nous avons des pénalités concernant les taxations DTS.
Alors, où est-ce qu'on doit déposer les dossiers après avoir justement reçu toutes ces informations, tous ces dossiers qui sont déjà remplis ?
Alors, pour pouvoir bénéficier d'une attestation pour soumission, il faut déjà, comme je le disais, adresser à la direction générale une demande d'attestation pour soumission qu'on accompagne avec le titre de paiement, en l'occurrence la quittance recette ou le reçu d'encaissement, qu'on devrait déposer au niveau du secrétariat du directeur du recouvrement du précontentieux pour étude par le gestionnaire en charge de cette entreprise.
Alors, les entreprises qui viennent déposer en retard, elles peuvent être victimes justement de quelques problèmes de financement.
Effectivement, c'est fréquent de la part de certains de nos usagers qui évoquent des problèmes de trésorerie, mais qui sollicitent de nous l'établissement d'une attestation pour soumission. Et comme vous savez, dans toute institution, il y a des règles de gestion. À ce moment précis, nous on propose à ces derniers de mettre sous forme d'échéancier leurs créances, mais avec l'obligation de reverser à la CNSS une partie. Donc, à ce moment précis, l'échéancier, qui est une forme de paiement, fait foi, l'employeur s'engage à payer sous un échéancier. Je prenais un exemple de 5 mois pour pouvoir épurer sa créance, tout en honorant le paiement des cotisations du trimestre à venir.
Mais il y en a qui peuvent se retrouver avec des créances beaucoup plus lourdes. Hein.
Tout à fait. Il y a des usagers.
Et quelles sont les mesures pour pouvoir les aider à faire en sorte qu'ils puissent payer selon vos dispositions?
Avec beaucoup de facilité. Voilà. Comme je le disais tantôt, les règles de gestion nous amènent aujourd'hui à prendre un certain nombre de décisions. C'est-à-dire que le top management aujourd'hui nous conseille et nous oriente sur ces aspects en nous proposant justement la mise en place d'un moratoire pouvant permettre à l'employeur de pouvoir honorer au paiement de sa créance. Et en sus de cela, l'avantage ici, c'est que lorsque l'employeur a obtenu son moratoire, donc son échéancier, on ne déroule plus les pénalités pour lui. Parce que tant que la créance demeure sans mouvement, et la loi nous oblige à dérouler les pénalités.
Madame, monsieur, si vous voulez participer, appelez tout de suite au 07 73 25 00. Vos questions seront transmises au cours de la deuxième partie de cette émission. Alors, monsieur Moret, est-ce que vous avez pu établir une cartographie des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale jusqu'à ce jour?
Je puis vous certifier que la cartographie n'existe pas, mais nous attelons à le faire. Aujourd'hui, il est assez difficile pour nous de pouvoir la finaliser parce que nous avons beaucoup d'employeurs qui effectuent des mouvements sans pour autant nous tenir informés. Je prenais un exemple, un employeur qui est à Libreville, qui se déplace sur l'Embarrainé. Si on connaissait au départ la localisation de ce dernier, en allant sur le site, on ne le retrouve pas. Donc, il est assez difficile pour nous de vous certifier que la cartographie est effective, mais je vous confirme que nous travaillons dessus.
Toutes ces personnes qui se déplacent, est-ce qu'elles ne sont pas informées des dispositions à prendre par rapport justement à la CNSS?
Nous avons communiqué dessus à travers des flyers, à travers des échanges et comme je vous le disais tantôt, nous avons un service qui est le service liquidation et le service gestion des dossiers employeurs qui communique assez. À chaque fois que nous constatons qu'un dossier n'évolue pas ou il n'y a pas de mouvement ou l'employeur ne nous retourne pas la DTS, nous adressons un courrier. Et lorsque l'employeur généralement se manifeste, on le lui notifie en lui disant en cas de déplacement ou de changement d'adresse, il est très important pour vous que de nous notifier cela parce que derrière ça, il y a une sanction qui est prévue par la loi. Vous ne recevez pas la DTS, vous ne nous la retournez pas. Nous, on commence à vous dérouler les pénalités sur la base d'un taux de 15%.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça?
Oui, beaucoup.
Alors, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans cet exercice?
Ah là là, mon Dieu, le non-retour d'informations, parce que tout dernièrement, d'ailleurs, nous avons mis en place des ateliers qui visaient justement à relancer ces employeurs pour qu'ils nous fournissent des bonnes informations. Mais je peux vous certifier que nous avons quand même rencontré des difficultés malgré la bonne volonté de la CNSS à l'endroit de ses usagers.
Difficultés majeures, là, lesquelles?
Bon, le refus de production d'informations. Il y en a qui se préservent ou qui se donnent le droit de fournir un certain nombre d'informations les concernant.
Est-ce que vous avez essayé de faire un baromètre en ce qui concerne le taux de réclamation?
Concernant notre activité, le baromètre sera toujours à la hausse, dans la mesure où, comme je le disais tantôt, pour nous, les requêtes et les réclamations, c'est un paquet, quoi. Les attestations pour soumission, c'est un caractère obligatoire pour les employeurs de les produire au niveau de la Direction générale des marchés publics, pour l'obtention des marchés. Les changements d'adresse, il y en a qui se manifestent quand même dans ce sens. Il y en a qui sont tenus aujourd'hui, lorsqu'ils sont en difficulté financière ou en liquidation, de nous adresser un courrier de demande de radiation ou de mise en sommeil. Donc, pour nous, nos types de réclamations émanent de nos usagers selon le besoin. Il est assez rare, je puis vous le certifier, il est assez rare que la direction du recouvrement du précontentieux fasse l'objet d'une réclamation suite à une mauvaise gestion. Mais il n'est pas exclu, hein, la perfection n'est pas de ce monde. C'est l'homme qui travaille. Au lieu de mettre 100, on peut mettre 200. À ce moment précis, l'usager peut solliciter de nous une modification. Mais ce type de réclamation... sur un baromètre de 100%, je peux vous dire qu'on n'atteint pas les 10%.
La CNSC s'est aujourd'hui certifiée. Qu'est-ce que cette certification a-t-elle apporté dans votre service?
Ben, déjà, je tiens à remercier la direction générale qui a pensé à entreprendre cette voie, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la certification, c'est le management, le top management. Donc, concernant mes services, parce que j'ai 3 services sous ma division.
Vous êtes un homme orchestre.
Pardon?
Vous êtes un homme orchestre.
Ben, si vous le dites, si vous le dites. Donc, au niveau de ma division, je puis vous certifier déjà que les mentalités ont changé, le principe de travail aussi a changé, hein, et l'ensemble des collaborateurs, aujourd'hui sont imprégnés et s'impliquent dans la nouvelle politique de management.
On peut constater, on peut remarquer la réactivité, la rapidité dans le traitement. Est-ce que les 45 jours sont respectés?
Oh, je puis vous certifier que déjà les 45 jours sont respectés. Les délais de traitement aujourd'hui sont respectés. Et d'ailleurs même, on fait tout pour aller en deçà des délais fixés par la norme.
Vous avez remarqué que tout le monde adhère?
Oui, oui, tout le monde adhère. Tout le
facilement?
Monde adhère. Facilement.
Tout le monde alors, adhère. En cas de non-réclamation ou de non-déclaration de DTS, que fait la CNSS? Est-ce qu'il y a pénalité?
Oui, effectivement, en cas de non-dépôt de la DTS par un usager, parce que ici le principe, comme je vous le disais tantôt...
Il faut préciser hein, pour les auditeurs, DTS c'est quoi?
Alors, la DTS, c'est la déclaration trimestrielle des salaires. C'est le document sur lequel l'employeur porte les noms de ses travailleurs et les salaires perçus courants le trimestre, donc comme le dit son nom, déclaration trimestrielle des salaires. Et ce document nous permet ici de calculer ou de faire ce qu'on appelle l'appel de cotisation.
Alors, en cas de non-déclaration,
en cas de non-déclaration, effectivement, le code et le décret d'application nous sommes et nous oblige, parce que comme on le dit, on n'interprète pas la loi, mais on lit la loi et on la dit. Donc le législateur a mis en place des verrous, hein, sommant les usagers de venir déposer la DTS. Et lorsque cette DTS n'est pas déposée, bien on commence à dérouler une pénalité qui débute à partir de 15%.
Alors là, on parle également de remise gracieuse des pénalités, c'est-à-dire?
Ben, la remise gracieuse des pénalités, c'était une requête qui est adressée par un employeur. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il peut se trouver effectivement qu'un employeur ne dépose pas dans les délais la DTS ou ne paye pas dans les délais. Au niveau de nos services, c'est-à-dire le service liquidation, on déroule des pénalités, majoration pour paiement tardif et taxation DTS. Ces pénalités gonflent la créance de l'employeur dans nos livres. Et lorsque l'employeur n'est pas en même de pouvoir payer sa créance, on lui exige déjà dans un premier temps de payer le principal qui est la cotisation due. Et conformément à la loi, il peut adresser une demande de remise gracieuse des pénalités à l'endroit de la CNSS.
Alors la pénalité, semble-t-il, reste le seul mécanisme mis en place pour obliger les employeurs à payer à temps?
C'était moyen coercitif, effectivement, c'était moyen coercitif, mais je vous dirais déjà ici que la CNSS a les mêmes prérogatives analogues que ceux du Trésor et des impôts. Mais je veux croire que comme nous faisons un peu dans le social, et le principe étant ici déclaratif, nous laissons l'employeur venir vers nous. Mais il existe effectivement des mécanismes qui devraient nous amener à impulser les employeurs.
Donnez quelques exemples.
Bon, je me réserve le droit de les avancer ici parce que ça relève un peu de la compétence de la direction des affaires juridiques et assurances.
Alors, il y a des employeurs qui ne déclarent pas toujours leur personnel. Déclaration en totalité, vous en avez souvent?
Oui, 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 effectivement. Nous avons, comme je vous le disais tantôt, le principe ici, il est déclaratif. Hein, il est déclaratif. C'est vrai que la loi oblige l'employeur à effectuer les déclarations. mais il existe certains employeurs qui, pour des raisons financières, déclarent un nombre précis par rapport à leur capacité, je me permets de le dire, de pouvoir honorer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la CNSS a mis quand même des verrous. Hein. Le législateur a mis des verrous.
Il y a un système de contrôle.
Oui, il y a un système de contrôle. Parce que nous avons au sein de la direction du recouvrement du précontentieux un service contrôle employeur. Je vous prends un exemple, une société lambda qui a son 500 salariés, mais qui ne déclare que 10. Alors, au moment où le service contrôle employeur vient effectuer sa mission de vérification, ben, il y a des documents, il y a des stratégies qui permettent de déceler les salariés qui n'ont pas fait l'objet de déclaration. À ce moment précis, ce service redresse la société.
Comment se manifeste ce redressement?
Ben déjà, ce redressement prend en compte les salaires perçus par ces salariés et en sus de ces salaires qui devront faire l'objet de paiement par l'employeur, il y a aussi des pénalités.
Est-ce qu'il n'y a pas de réaction de la part de l'employeur?
Si l'employeur réagit, généralement l'employeur nous avance des propos comme je ne me reconnais pas dans, mais nous démontrons, hein, parce que le redressement est fait sur la base des pièces comptables et des pièces RH.
Et qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise à ne pas déclarer totalement ses employés?
Bon, selon mon analyse, lorsque la masse salariale est déclaré en totalité au niveau des impôts, vous conviendrez avec moi que les impôts sont minorés. D'accord? Si on devait payer 100 000, plus la masse salariale est importante, nous on paye les impôts. Mais le cas précis de la CNSS, c'est que comme c'est la vie de l'assuré, on est tenu de payer au taux qui est de 22,60. Donc le montant est souvent important. Je vous prendrai un exemple, une société qui a une masse salariale de 100 millions, ben elle va payer 22 600 000 pour les cotisations, mais reparti entre les charges salariales et les charges patronales, il faut le préciser.
Oui, mais justement, quand vous procédez au redressement, est-ce que ça ne va pas avoir une incidence financière sur son... Mais
forcément, parce que pour nous considérons ceci. Le principe étant déclaratif, l'article 3 du Code de sécurité sociale oblige l'employeur à déclarer son personnel. Donc, s'il ne l'a pas fait et que ce dernier prélève effectivement la charge salariale sur le bulletin de l'assuré, ben nous sommes tenus, hein, nous sommes tenus. Le législateur a mis en place ces dispositions, a fixé un taux, et l'employeur qui est un opérateur économique qui bénéficie très souvent pour certains d'un très bon chiffre d'affaires, ben c'est qu'il est tenu d'effectuer le paiement.
Vous avez une idée générale de l'ensemble des entreprises qui exercent sur le territoire national aujourd'hui?
Bon, dans nos livres. Peut-être pas sur le territoire, mais du moins ceux qui sont immatriculés à la CNSS. Hein. Ceux qui sont immatriculés à la CNSS, nous tendons entre 5 000 et 7 000. Vraiment, je vous avance ce chiffre qui est, je ne certifie pas qu'il est exact. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des mouvements. Il y a des sociétés qui se créent, qui s'immatriculent. Il y en a qui cessent toute activité.
Madame, monsieur, comme à l'accoutumée, je vous l'ai dit, si vous voulez participer à cette émission, appelez directement 07 113 25 00.
La question de l'auditeur.
La question de l'auditeur.
Eh bien, nous voici à présent dans la deuxième partie de cette émission, dans la rubrique « Question de l'auditeur ». Nous avons là quelques questions qui nous sont parvenues. Nous allons commencer avec cette première question de Monsieur Vono Biban. Il appelle depuis Lambaréné. Il dit qu'il aimerait savoir quelles sont les pièces qu'il pourrait fournir pour son immatriculation en tant qu'assuré, ainsi que celles de sa famille pour bénéficier de la prestation de la CNSS. Monsieur Maurice.
Ben, je remercie Monsieur Vono depuis Lambaréné qui nous écoute. Alors, pour pouvoir procéder à l'immatriculation d'un travailleur, l'un des premiers éléments, c'est déjà le document de demande d'immatriculation renseigné. Nous avons deux photos d'identité qu'il faut produire pour l'établissement d'une carte d'assure, l'acte de naissance du travailleur. Bon, ça, c'est essentiellement pour l'assuré, mais le deuxième volet de la question portait sur l'alignement de sa progéniture. Alors, concernant... alignement de la progéniture, l'assuré doit produire l'acte de naissance de ses enfants et celui de la maman. Rappelant ici que on ne peut aligner que les enfants d'une même mère. Jusqu'à ce que récemment, la direction générale ait proposé de pouvoir aligner tout de même les enfants génétiques de l'assuré.
Les enfants naturels.
Voilà, naturels de l'assuré. Donc, ce sont les pièces à produire. Et en sus de ces pièces, ben, il y a un deuxième document qu'on appelle la structure familiale qu'il faut renseigner.
Donc, nous pensons que M. Vono est fixé. Nous allons également prendre cette deuxième question. Il y a aussi là la question de M. Mabika. Il dit qu'il a introduit une demande d'attestation pour soumissionner un appel d'offres. Hein, c'est certainement un employé.
Tout à fait.
Ou un employeur.
Un employeur.
À la CNSA. Alors, jusqu'à présent, il dit qu'il se demande pourquoi il ne l'a pas encore reçu.
Alors, faudrait que M. Mabika comprenne un peu le principe. Hein. Je l'ai énoncé d'ailleurs tout à l'heure. Pour pouvoir bénéficier d'une attestation pour soumission, il faut d'abord être immatriculé à la CNSS.
Forcément.
Si ce n'est pas, oui, forcément. Si ce n'est pas le cas de M. Mabika, ben que ce dernier lance déjà la procédure de demande d'immatriculation pour être assujetti à notre régime. Alors, c'est l'un des premiers volets. L'autre volet, si M. Mabika n'a peut-être pas reçu son attestation pour soumission, c'est qu'il n'est pas à jour de ses cotisations. Alors, à ce moment précis, je veux croire qu'on est rentré en contact avec lui et que nous avons peut-être éprouvé des difficultés parce que, comme je le disais tantôt, beaucoup d'employeurs changent de coordonnées sans pour autant informer la CNSS. Donc, qu'il se rapproche de la CNSS et de son gestionnaire précisément pour pouvoir bénéficier des informations.
Quelles sont les conditions d'obtention de cette pièce?
Alors, comme je le disais, pour obtenir une attestation pour soumission, il faut être immatriculé. C'est l'élément déclencheur. Il faut être à jour de ses cotisations.
On va poursuivre cette fois avec cette troisième préoccupation. Il y a également cette réclamation de monsieur Delanglade. Hein. Il aurait remarqué que son expert comptable aurait fait dans l'usage du faux en matière d'aspect documentaire et pourtant il a fait l'objet d'immatriculation. Qu'est-ce qu'il doit faire?
Ben, qu'il se rapproche déjà de la CNSS, d'accord, dans un premier temps, pour vérifier si effectivement sa société est immatriculée et si son expert comptable lui aurait remis un numéro cotisant. Eh ben, qu'il vérifie si ce numéro cotisant est bel et bien la propriété de sa société. Parce que ici, le système chez nous, c'est un seul numéro cotisant pour un cotisant. On ne peut pas se retrouver dans le cas de figure des doublons. Parce que nous avons des verrous, nous avons des mouchoirs dans notre système qui ne permettent pas de partager un numéro entre deux usagers.
Alors ça relance le problème des employés qui, au dernier moment, sont surpris par tous ces comportements véreux. Est-ce qu'il y a un système pour faire en sorte que l'employé puisse suivre de lui-même pendant qu'il est en fonction?
Tout à fait. Nous avons au sein de la direction du recouvrement et du précontentieux un service études et carrières. Nous donnons la possibilité à l'ensemble des assurés de se présenter au niveau de la direction du recouvrement et du précontentieux pour solliciter la reconstitution de carrière, pouvant lui permettre de savoir si effectivement il est présent sur une DTS et si les sommes déclarées sont conformes aux sommes perçues.
Apparemment, il y en a qui ne se pressent pas pour venir.
Oui, il y en a qui ne se pressent pas. Nous avons eu des cas de figure où certains, c'est au moment de l'introduction du dossier de demande de pension qu'ils se rendent compte que, ben, effectivement, telle société n'a pas déclaré, n'a pas reversé. Malheureusement, vous conviendrez avec moi, la plupart des sociétés n'existent plus.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce type de cas? Est-ce que la personne perd complètement ses cotisations ou bien qu'est-ce que...
Ben pour déjà les sociétés qui n'ont pas déclaré et qui n'ont pas reversé les cotisations, c'est généralement assez difficile pour nous que de reconstituer la carrière de l'assuré parce que nous n'avons pas les éléments probants pouvant nous permettre effectivement de payer. Mais lorsque nous faisons face à des sociétés qui existent et qui exercent encore, à ce moment précis, nous établissons un document qu'on appelle un état de somme due individuel que l'on adresse à l'employeur, lui notifiant que de telle période à telle période, Monsieur X était dans votre société et nous sollicitons de vous le paiement de...
Est-ce que il y a pas eu des garde-fous? Parce que ça, on devait quand même le savoir, qu'il y a des situations comme ça, non?
Tout à fait, tout à fait. En fait, je vous le disais tantôt, le principe ici, il est déclaratif. Hein. Le principe est déclaratif. L'employeur déclare le personnel qu'il a. Mais comme je le disais tantôt, nous avons cette chance d'avoir un service qui effectue des contrôles pour la CNSS. Et lorsque ces derniers tombent dans ces cas de figure ou croisent ces cas de figure, ben il redresse sa société pour que la société puisse procéder au paiement de ses cotisations.
Voilà, mesdames et messieurs, pour les questions, compte tenu du temps qui nous est imparti, les questions qui n'ont pas été abordées au cours de cette émission, eh bien, les réponses vous seront données hors antenne via vos numéros de téléphone. C'est nécessaire, la une s'achève. Monsieur Moret et Fabrice, peut-être un dernier mot à titre de conclusion.
Ben, comme vous le savez, je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir offert l'opportunité d'être sur ce plateau, pour édifier encore un peu plus nos partenaires, parce que ce sont nos clients, ce sont nos partenaires, et dire ici, au nom de la direction générale et la direction du recouvrement, que la CNSS reste disponible pour l'ensemble de ses usagers, pour produire toutes les informations nécessaires afin de pallier aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien concernant la sécurité sociale.
On dit merci à notre invité, Monsieur Fabrice. Merci d'avoir répondu à notre appel. On dit également merci aux auditeurs pour leur aimable fidélité. À la technique, Didier Makaya, devant ce micro, Romuald Koumba. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission.
Caisse nationale de sécurité sociale, notre ambition, mieux vous servir.